le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va parler du conflit israélo-palestinien et des derniers rebondissements de ces dernières semaines, notamment une décision inédite, un tournant diplomatique que peu auraient imaginé il y a encore quelques mois, puisqu'il y a 5 pays occidentaux, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont annoncé des sanctions coordonnées à l'encontre de 2 ministres israéliens d'extrême droite. Il s'agit de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Deux figures bien connues de la scène politique israélienne, dont les discours et les actes sont devenus ces derniers mois une source majeure de controverses dans le cadre de la guerre à Gaza. Les mesures sont claires, interdiction de territoire et gel des avoirs. Une décision lourde de symboles qui aligne ces sanctions sur celles prises contre certains responsables russes après l'invasion de l'Ukraine. Et c'est pas pour rien. Et surtout, ça marque un éloignement stratégique, notamment du Royaume-Uni qui est le dernier en date à avoir eu ces sanctions, vis-à-vis de la position plus prudente de Washington sur le conflit israélo-palestinien. Dans leur communiqué commun, ces 5 gouvernements accusent les 2 ministres israéliens d'avoir alimenté des discours d'incitation à la haine, d'avoir soutenu des violations graves des droits des Palestiniens et des Palestiniennes et d'avoir favorisé des appels explicites à la violence. Ils dénoncent aussi une rhétorique particulièrement extrême, notamment autour du déplacement forcé de populations palestiniennes et de la poursuite des colonies israéliennes en territoire occupé. Un langage jugé toxique, incompatible avec toute tentative de résolution pacifique du conflit et contraire aux principes défendus par la communauté internationale, notamment l'objectif d'une solution à 2 États. Il faut dire que les déclarations des 2 hommes n'ont pas laissé place aux doutes. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, n'a pas hésité à affirmer que Gaza devait être entièrement rasé. Il a aussi évoqué l'idée d'une migration volontaire des Gazaouis, ce qui, dans le contexte actuel, ressemble fortement à une incitation au nettoyage ethnique. Son collègue Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, tient depuis quelques mois des propos similaires, appuyant une ligne dure que le gouvernement israélien semble peiner à condamner. Et pour cause, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a besoin de ces 2 figures pour tenir sa coalition, l'une des plus droitières que le pays ait jamais connue. Dans un système parlementaire aussi fragmenté que celui d'Israël, chaque voix compte. Et Smotrich, comme Ben-Gvir, représentent des blocs politiques indispensables pour maintenir la majorité. Mais à l'international, cette alliance commence déjà à coûter cher. Déjà en mai, la France, le Canada et le Royaume-Uni avaient lancé un avertissement. Si l'offensive sur Gaza ne s'arrêtait pas et si les restrictions humanitaires n'étaient pas levées, des mesures concrètes suivraient. Et nous y sommes. Pourtant, Paris, par contre, n'a toujours pas franchi le pas, cette fois, ce qui illustre des divergences persistantes au sein des alliés occidentaux quant à la manière de traiter la situation israélienne. La colère du gouvernement israélien ne s'est pas fait attendre. Bezalel Smotrich a réagi dans un style qui lui est familier, évoquant une comparaison biblique pour dénoncer le Premier ministre britannique Keir Starmer, en le mettant sur le même plan que les ennemis ancestraux du peuple juif. Une réponse symbolique et provocante, comme pour minimiser l'impact réel des sanctions tout en mobilisant un sentiment nationaliste fort. D'autres responsables israéliens ont aussi dénoncé la décision, estimant qu'elle était inacceptable et contre-productive. Certains l'ont même comparé aux politiques britanniques restrictives de l'époque coloniale, notamment le livre blanc de 1939 qui limitait l'immigration juive vers la Palestine mandataire à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces sanctions ne font pas l'unanimité non plus en Israël. L'ancien ministre Benny Gantz, rival de Netanyahou, a exprimé sa désapprobation vis-à-vis de Smotrich et Ben-Gvir, mais il considère tout de même que ces sanctions sont une erreur morale. En clair, même si le fond des critiques est justifié, il ne croit pas que les sanctions personnelles soient la meilleure réponse. A l'inverse, certains défenseurs et défenseuses des droits humains se félicitent de cette décision. Etei Mack, qui est un avocat israélien engagé depuis des années pour que des sanctions soient prises contre les colons violents et leur soutien politique, y voit une étape historique. Pour lui, c'est un signal fort envoyé à Netanyahou et à son gouvernement. Si 2 ministres peuvent être visés de la sorte, alors aucun responsable responsable politique israélien ne peut plus se croire intouchable sur la scène internationale. Le message est donc double. D'abord, il y a la condamnation d'une politique et d'un discours jugé dangereux, voire incendiaire, dans un contexte déjà tragiquement tendu. Ensuite, il y a un avertissement plus large. Le monde regarde et la tolérance pour les dérives les plus extrêmes au sein du gouvernement israélien semble atteindre ses limites. Alors que la guerre à Gaza continue de faire des milliers de morts, que l'aide humanitaire reste insuffisante et que les tensions régionales ne cessent de monter, cette décision pourrait bien marquer le début d'un tournant dans les relations internationales avec Israël. Un moment où certains pays cessent de se contenter de déclarations d'intention pour adopter des mesures concrètes. Reste à savoir si cette pression sera suffisante pour provoquer un changement de cap à Tel Aviv. Parce que pour l'instant, les lignes rouges continuent d'être franchies et les appels à la désescalade semblent encore bien loin d'être entendus. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a le petit voilier nommé Madeleine qui a fait parler de lui, qui était parti donc sous l'ambition symbolique de briser le blocus de Gaza. C'est le bateau qui transportait une douzaine de militants pro-palestiniens, dont des figures bien connues comme Greta Thunberg ou encore l'eurodéputé Rima Hassan. Mais très vite, leur expédition a été interrompue, le navire a été intercepté par la marine israélienne et conduit au port d'Ashdod. Un geste prévisible, mais qui a ravivé le débat tant sur le fond que sur la forme. Du côté israélien, l'épisode a été largement minimisé, voire tourné en dérision. Faut dire que le pays, en proie à de fortes tensions internes liées donc aux querelles de coalition de Benjamin Netanyahou et à la pression grandissante des partis ultra-orthodoxes, n'a pas vraiment fait de cette affaire une priorité médiatique. La majorité des grands journaux n'y ont accordé qu'un traitement anecdotique, si ce n'est une petite phrase moqueuse en une, je cite, « Ils voulaient Gaza, ils ont eu Ashdod ». Une manière donc de tourner en ridicule ce qu'ils perçoivent comme un coup médiatique plus qu'un acte de résistance sérieux. Pour de nombreux responsables et commentateurs israéliens, cette expédition n'était donc rien d'autre qu'un spectacle orchestré par les réseaux sociaux. Greta Thunberg en tête d'affiche, quelques cartons d'aide à bord et un objectif, frapper les esprits. Le ministère israélien des Affaires étrangères a rapidement rebaptisé l'embarcation le yacht à selfie ou encore le bateau des célébrités, accusant les passagers de privilégier la mise en scène à l'action humanitaire réelle. Sur les réseaux sociaux, les officiels israéliens ont affirmé que le show est terminé à l'issue de l'interception. La presse israélienne anglophone, plus attentive au regard de l'international, a abondé en ce sens. Des médias comme The Jerusalem Post ont souligné que, contrairement à des précédents tragiques comme l'affaire du Mavi Marmara en 2010, où il y avait eu 10 militants et militantes qui avaient été tués lors d'un arraisonnement, l'armée israélienne avait cette fois agi avec rapidité et précision. Aucun incident, aucune bavure, tout a été exécuté dans le calme. Et surtout cette fois-ci, Israël avait anticipé la bataille de la communication. L'accusation principale côté israélien est claire. Derrière l'apparente bienveillance des militants, il y aurait en réalité une opération de soutien direct au Hamas, l'organisation qui contrôle la bande de Gaza et qui est classé comme terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Les passagers du navire, selon cette logique, contribueraient à redorer l'image du groupe qui opprime autant les Gazaouis que les Israéliens. C'est dans ce sens que le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, est allé jusqu'à accuser Greta Thunberg d'antisémitisme, une accusation très grave, notamment dans le contexte israélien. Pourtant, cette interprétation ne fait évidemment pas consensus. Le quotidien Haaretz, l'un des rares à prendre distance avec la ligne dure du gouvernement israélien, a dénoncé une instrumentalisation du terme antisémitisme. Selon lui, rien ne permet de conclure que l'engagement de Greta Thunberg pour les civils gazaouis relève d'un quelconque biais antisémite. Ce serait même, selon leurs mots, une dégradation du sens même du terme. Pour Haaretz, se soucier des Gazaouis ne revient ni à soutenir le Hamas, ni à justifier les violences du 7 octobre. Il s'agit simplement, selon eux, d'un acte de solidarité face à une situation humanitaire dramatique. Et c'est bien ce que martèle aussi la presse palestinienne. Pour les journaux de Gaza ou de Cisjordanie, l'expédition du Madeleine, qui n'a pas vraiment été un échec, même s'il n'a pas atteint les côtes gazaouis. Au contraire, le simple fait d'avoir levé l'ancre, d'avoir attiré les projecteurs sur la situation dramatique dans l'enclave, suffit à redonner un peu d'espoir à une population assiégée depuis des mois. Une chroniqueuse palestinienne a d'ailleurs même parlé d'un crime moral, d'un acte de foi dans une humanité que beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes ont le sentiment d'avoir perdu. L'expédition de ce navire s'inscrit en fait dans une initiative plus large, celle de la flottille de la liberté, qui depuis depuis 2010, tente de briser symboliquement le blocus de Gaza. Les critiques israéliennes affirment que si cette flottille voulait vraiment mériter son nom, elle devrait aussi plaider pour la libération des otages israéliens toujours retenus à Gaza. Mais les militants et militantes à bord du Madeleine rétorquent que leur objectif n'est pas de défendre un camp contre un autre, mais bien de souligner l'urgence humanitaire dans une zone où les besoins les plus élémentaires ne sont plus assurés. Greta Thunberg, quant à elle, a quitté Israël dès le lendemain parce qu'elle a signé le papier qu'on lui a demandé de signer, et d'autres passagers, comme Rima Hassan par exemple, ont refusé de signer les documents d'expulsion. En fait, ils devaient signer un papier qui disait qu'ils avaient effectivement été arrêtés dans les eaux israéliennes et pas dans les eaux internationales. Et c'est pour ça que la plupart ont refusé. Ils devraient donc faire face à une procédure juridique dans les jours à venir. Et ce qui est certain, c'est que l'épisode du Madeleine n'aura pas bouleversé le cours des choses à Gaza. Mais il aura peut-être permis de rappeler que derrière le chiffre et les slogans, il y a des femmes, des hommes, des enfants et un quotidien de souffrance qui mérite mieux que le silence ou la caricature. Dans une époque qui est saturée d'images et d'informations, ce petit bateau a quand même réussi, l'espace d'un instant, à réactiver le débat essentiel, celui de la frontière entre l'engagement humanitaire et la propagande, entre la solidarité et la récupération politique. Et si chacun lit cet épisode avec ses propres filtres, le simple fait qu'il provoque autant de réactions témoigne de son impact symbolique. Parce qu'un voilier, même modeste, peut encore faire des vagues. Et il est vrai que depuis quelques jours, dans les capitales européennes, on entend un changement de ton. À Londres, à Paris, à Berlin, les déclarations se font de plus en plus dures, les condamnations d'Israël de plus en plus claires. On parle désormais d'actions disproportionnées, injustifiables, ou bien de carnage à Gaza. Et forcément, on s'interroge, est-ce que enfin il va y avoir un tournant, un vrai ? Est-ce que l'Europe, après plus d'un an et demi d'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne, se décide enfin à faire pression, à sortir du simple registre verbal ? La réponse pour l'instant est non. Et c'est là toute l'ironie amère de la situation, parce que, en fait, si le discours change, la réalité, elle bouge pas vraiment, la guerre, elle continue, les bombes tombent toujours, les enfants meurent toujours de faim, les hôpitaux s'écroulent, les ONG implorent en vain. On peut dénoncer, on peut choquer, on peut s'indigner, mais tant que ces mots ne se traduisent pas en des actes concrets, eh ben c'est qu'un écho. Ça fait bientôt 20 mois que Gaza est prise dans une spirale de destruction et ce n'est plus tenable. Même les plus proches alliés d'Israël ont de plus en plus de mal à justifier ce qui se passe. Car au fond, comment continuer à défendre une guerre où 100 personnes meurent chaque jour ? Comment encore parler de droit à la défense quand ce droit semble impliquer l'effacement méthodique d'un peuple entier ? Pendant longtemps, l'argument central a été la lutte contre le Hamas, mais aujourd'hui, même ça, ça tient plus. Les bombardements systématiques, les famines organisées, les appels au déplacement de population ne peuvent plus être maquillés. Ce n'est plus seulement une guerre contre une organisation, c'est un projet, une volonté de réorganiser géographiquement, humainement, une région tout entière. Et ça, même les chancelleries les plus prudentes finissent par le reconnaître. Mais il y a un gouffre immense entre reconnaître et agir. Depuis le début, les leviers de pression internationales, ceux qui fonctionnent si bien contre d'autres régimes, sont restés lettre morte quand il s'agit d'Israël. Les institutions internationales ont parlé, les tribunaux ont réagi, les ONG ont alerté, les experts ont dénoncé, et pourtant, aucune action décisive jusqu'à maintenant, comme si Israël évoluait sous un dôme d'impunité protégé des conséquences de ces actes. Il n'y a que quelques pays occidentaux, 5, qui ont pris des mesures punitives contre deux ministres du gouvernement Netanyahou. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'un problème d'injustice ou de duplicité, c'est aussi un problème d'efficacité, parce qu'ils sont que 5 et cette impunité de la part des autres pays, ça renforce encore Israël dans sa posture. Chaque condamnation sans suite alimente l'idée que Israël est seul contre tous, incompris, victime de discrimination, et ce récit d'un État juif assiégé dans un monde hostile devient l'armure légitime, l'escalade qui permet d'aller toujours plus loin. Et pendant ce temps, Gaza devient un ghetto, pas un simple champ de bataille, mais un espace de punition collective, une prison à ciel ouvert où la nourriture, l'eau, les soins deviennent des armes de guerre. Et ce n'est pas un excès de langage. Quand un enfant meurt de faim sous les yeux du monde, ce n'est plus un dommage collatéral, c'est un choix politique. Alors oui, les mots changent, mais ils changent trop tard, trop lentement, et surtout, ils n'empêchent absolument rien. Les grandes manifestations, les revirements d'opinion publique, les débats dans les universités ou les parlements européens, tout ça a créé des fissures, mais aucune brèche n'a encore été ouverte dans la forteresse de l'inaction. Et pendant qu'on tergiverse, la situation empire. Plus les semaines passent, plus il devient difficile de convaincre l'opinion que ce conflit pourrait encore se régler dans un cadre de droit. Plus le temps passe, plus la radicalité des positions israéliennes devient évidente. Quand un ministre peut déclarer vouloir raser le sud de Gaza avec l'aide de Dieu sans réaction ferme, on se demande ce qu'il faut de plus pour déclencher une réponse digne. Suspendre des accords commerciaux, menacer de futures coopérations, c'est pas des sanctions, c'est juste des murmures pour l'instant. Ils sont inaudibles pour un gouvernement israélien qui considère déjà qu'il peut se passer du reste du monde. Si l'Europe veut vraiment agir, faut oser franchir des lignes rouges. Oser dire qu'Israël n'est plus un facteur de stabilité. Oser remettre en cause cette idée très occidentale qu'Israël serait comme nous, partageant nos valeurs, donc forcément du bon côté. Et surtout, il faut agir comme on agit face à tout État qui bafoue les droits humains à ce niveau. Donc sanctions, embargos, isolement diplomatique, poursuites judiciaires, etc. Pas par vengeance, mais vraiment par cohérence et pour le droit international. L'Union européenne, à elle seule, représente un tiers des exportations israéliennes. Elle a du levier. Et pourtant, elle continue à marcher sur des œufs. Peut-être par peur d'un vide stratégique, par fidélité historique, par crainte de l'axe iranien, peut-être. Mais tout ça, ça appartient au monde d'avant. Le nouveau monde est déjà là et dans ce monde, le silence devient une complicité. Les Palestiniens et les Palestiniennes paient déjà le prix fort et à force d'inaction, c'est aussi notre cohérence morale qui s'effondre, notre capacité à dire ce qui est juste et ça, aucun mot ne pourra jamais le réparer. Si vous voulez en savoir plus sur la situation ou surtout si vous voulez agir à votre échelle pour le conflit israélo-palestinien, donc pour aider les Palestiniens, la population palestinienne, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.